à ça. Alors pourquoi l'OMC, dans mes introductions un peu longues, j'en ai déjà très, très longuement parlé. Je reprends là vraiment la phrase de Pierre Kahn, favoriser l'aptitude à vivre ensemble dans une société démocratique. C'est-à-dire, soyons très clairs, ce n'est pas que le vivre ensemble à l'école, au collège et au lycée, c'est préparer le vivre ensemble dans une société démocratique. Et le philosophe Pierre Kahn décline cette aptitude autour de 6 familles de compétences. Alors, je ne les développerai pas toutes les 6 parce que là, on en aurait pour longtemps, mais quand même, ces familles de compétences, c'est l'autonomie. L'OMC a pour objectif de favoriser l'autonomie de l'élève. Alors, l'autonomie, pas physique, là, bien sûr, mais l'autonomie intellectuelle de l'élève. C'est quelque chose de fondamental. L'éducation morale et civique est le contraire de l'endoctrinement. Et j'ai envie de dire que si vous avez un doute là-dessus, je devrais couper le micro, ne l'enseignez pas. N'enseignez pas de morale si vous pensez que la morale, c'est l'endoctrinement. Alors là, parce que là, on fait un bond de 2 siècles et demi, on se retrouve dans l'obscurantisme de l'Ancien Régime. Hein. Très, très clairement, la morale dans une république telle que la nôtre, c'est un apprentissage de l'autonomie. On y reviendra. Bonjour. Deuxième famille de compétences, le rapport à la loi et aux règles. Ça, c'est plus classique, mais il ne faut pas le perdre de vue. Ce qui fonde le vivre ensemble dans une société démocratique, c'est notre rapport à la loi et à la règle. Alors, si on écrit rapport à la loi et à la règle, c'est encore une fois pour ne pas mettre, ce qui aurait été plus facile, l'obéissance à la loi et à la règle. La société démocratique n'est pas une société d'obéissance à la loi et à la règle, c'est une société d'acceptation démocratique de la loi et de la règle. Alors vous allez me dire, évidemment, sur un programme d'EMC, ça ne se décline pas de la même manière quand on est au cours préparatoire que quand on est en terminale. Nous sommes bien d'accord. Mais dès le cours préparatoire, il faut avoir en tête la nature de ce rapport à la loi et à la règle. Alors moi, quand je vais dans des écoles, je vois très souvent des choses qui vont dans ce sens-là. Vous voyez, il y a 2 manières de travailler un règlement intérieur, un règlement de fonctionnement dans une classe. Celui où l'enseignant l'amène tout fait et où il y a écrit « je dois, mes droits, peut-être quelques devoirs aussi », point. Et celui où c'est un objet non pas de négociation, mais véritablement un objet où on fait vivre, on fait comprendre, accepter et vivre un règlement. C'est ça le rapport à la loi et à la règle chez les petits, et après ça devient notre loi et nos règles du vivre ensemble. Le troisième famille de compétences très importante aussi, celui de la sensibilité à l'autre et de la réciprocité. Comment accepter, pas seulement faire connaître, accepter que l'autre est indifférent et peut avoir, au plan non collectif et non social, ses propres droits et ses propres règles. Cette acceptation. Alors c'est extraordinaire parce que notre école a énormément progressé sur cette acceptation quand il s'agit de l'acceptation des droits et des règles des élèves et des adultes handicapés, mais beaucoup moins quand l'autre est différent d'une autre manière que celle d'un handicap. les droits et les règles de quelqu'un qui arrive d'une autre culture, est-ce qu'on les respecte autant que celles d'un enfant handicapé? C'est une question qu'on doit se poser. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut moins respecter l'enfant handicapé, mais peut-être accepter de reconnaître l'autre tel qu'il est véritablement. Ce qui amène à la quatrième famille, c'est-à-dire la coexistence de liberté. On y reviendra. Dans une société démocratique, ce qui fait la différence entre les valeurs d'une société, d'une république démocratique et sociale, et des valeurs, pour un philosophe, des valeurs absolues, c'est que ces valeurs font coexister des libertés différentes ensemble. La liberté, c'est une glorification romantique de quelque chose ou philosophique de quelque chose. La liberté telle que la valeur existe, elle est conjoncturelle. Elle a un côté universel, un côté intemporel, mais son application est conjoncturelle. Bon, ça me fait gagner du temps tout à l'heure. Je vous donne un exemple qu'on a tous vécu ces dernières années. La liberté et l'égalité pour les couples homosexuels, elle est strictement liée à des choix politiques. Et c'est pourtant la référence à la même valeur. Mais simplement, en 2016, cette égalité et cette liberté sont d'une nature différente de ce qu'elles étaient en 2013. Tout simplement parce que à un moment donné, la loi a reconnu des libertés complémentaires, mais qui se réfèrent au même principe de la République. Donc, ça aussi, c'est... Quand on l'enseigne, alors, pas à des élèves trop jeunes, mais à des adolescents, c'est difficile de leur faire prendre conscience que quand on protège la liberté, ça doit se traduire par quelque chose de concret. J'espère ne pas vous choquer. Je continue sur un exemple. On gagne du temps par rapport à tout à l'heure. J'ai assisté par une chance extraordinaire, enfin, volontairement, parce que je voulais aller dans un lycée après les attentats de septembre l'année dernière. Et bon, j'étais dans un lycée... Bon, parisien, c'est-à-dire quand même pas trop trop difficile, mais quand même pas. Je n'ai pas choisi Henri IV ou Louis Grand. Hein. J'étais quand même dans le 19e pour avoir un peu la vraie vie et puis des gens de communauté un tout petit peu différents. Et j'ai assisté chez un collègue prof d'histoire géo, évidemment, ça j'ai fait exprès. Et j'ai assisté à la, non pas à la minute de silence, mais à la discussion qu'il y avait eu suite aux attentats, alors un peu différé, hein, la semaine d'après. Et le collègue avait souhaité respecter la minute de silence, mais prendre du temps pour vraiment avoir hein, quelque chose d'un peu construit avec ses élèves. Et un élève lui a posé la question du respect d'une liberté qu'elle estimait double, à la fois l'attentat contre Charlie Hebdo, qui est un attentat contre la liberté d'expression, mais le fait que Dieudonné soit condamné, qui était à ses yeux aussi une atteinte à la liberté d'expression. En gros, elle a demandé à son prof, comment vous pouvez justifier cette liberté qui est à mes yeux une liberté à double vitesse. Et le collègue avait bien fait de se donner du temps à préparer parce qu'il a simplement expliqué ça par la loi, tout simplement. Le principe de la liberté d'expression est limité par la loi. Parce que tenir des propos racistes et antisémites est contraire à la loi. Donc la loi peut condamner M. Dieudonné et protéger les journalistes de Charlie Hebdo. Et il en a profité pour expliquer à cette jeune fille que la loi pouvait changer et que peut-être que dans 10 ans, on limitera, par exemple, les attaques contre les religions, quelles qu'elles soient, et qu'à ce moment-là, les choses auraient changé. Mais c'est bien le principe de la liberté d'expression et de la coexistence de libertés qui peuvent être différentes dans un État républicain constitué qui faisait, qui expliquait les choses. Et vous voyez, c'est cet exemple qui a été compris, enfin, je veux dire, là, ça a discuté ferme, hein, ça a duré 50 minutes quand même. Dans la classe, les élèves étaient non pas partagés, ils reconnaissaient, mais je pense que s'ils avaient été députés, on aurait tout de suite fait une loi restreignant la liberté d'expression à Charlie Hebdo, hein, très, très clairement, parce que, je veux dire, autant ils acceptaient que Dieudonné puisse être condamné, autant, dans le 19e arrondissement, c'était plus difficile à légitimer le fait que des journalistes puissent attaquer à Mahomet, pour dire les choses très clairement, parce que c'était ce qu'il y avait derrière ces questions. Je continue quand même sur mes familles. Le sentiment d'appartenance à une communauté politique, c'est effectivement un des objectifs de l'EMC. Nous appartenons à une communauté politique au sens le plus complet du terme, c'est-à-dire que nous appartenons à une communauté référée à une république démocratique et sociale. Il faut l'avoir en tête, hein. Ça se construit très progressivement chez les élèves, mais c'est une des finalités. Puis, vivre dans une communauté politique, ça signifie s'engager au service de cette communauté. Et le mouvement qu'on vit actuellement dans notre société, relayé par le président de la République encore hier ou avant-hier, je ne sais plus, montre très clairement que dans un monde un peu idéal, il ne peut pas y avoir de citoyens passifs. La citoyenneté ne peut être qu'active. Alors, le niveau d'engagement est de nature très différente, mais le premier engagement, c'est quand même de participer à ce plus que SMIC qu'est l'expression, la manifestation du droit de vote. Or, on sait quand même aujourd'hui, regardez les pourcentages de participants à toutes les élections, que même cet acte infime d'engagement n'est plus tenu globalement que par une bonne moitié des citoyens français. Et ça doit nous interroger. Alors les autres engagements, n'en parlons pas. Mais je pense que face à des attaques, la réaction, j'étais assez surpris quand même de la réaction d'une partie des plus jeunes qui n'ont pas envie, qui n'ont peut-être plus tout à fait envie d'être strictement passifs, consommateurs de choses. Ça peut être le début de la mise en œuvre d'un des principes de cette EMC. Alors très vite sur les concepts, j'irai un peu plus vite sur certains que sur d'autres. L'autonomie, on en a déjà parlé, hein, c'est obéir à la loi qu'on s'est fixée soi-même. C'est ça être autonome. Et donc là, le résultat positif d'un enseignement moral et civique, c'est d'être capable de se fixer des lois. Alors après, il faut que ces lois ne soient pas en contradiction avec la loi des autres, bien sûr. Mais quand même, déjà, autonome, c'est se fixer des règles de vie. Vous êtes autonome. À un moment donné, vous choisissez de fumer, d'arrêter de fumer. Dans un contexte où vous êtes éclairé par ce que la science dit, mais in fine, c'est votre propre choix. D'ailleurs, si c'est le choix d'un autre, il y a fortes chances que ça ne serve pas à grand-chose. Notion clé aussi, vous êtes celle de citoyenneté éclairée, la capacité de choisir, d'agir, de participer aux affaires de la cité. Exercice de jugement, de discernement. Je veux dire, aujourd'hui, l'école est, pour beaucoup d'enfants et d'adolescents, le seul endroit où on peut favoriser cet exercice du jugement, ce discernement. Ne l'aura-t-on pas? Alors vous voyez déjà arriver ma deuxième partie sur la pédagogie à mettre en œuvre. Hein. Exercer le jugement et le discernement, ça ne s'impose pas, ça se construit. Puis nous sommes une communauté, enfin nous sommes, non. L'idéal voudrait que nous soyons une communauté de citoyens. C'est-à-dire quelque chose de collectif, soudé par l'adhésion à des principes et des valeurs communes, et par le souci de les conserver. Ce n'est pas pour rien que, si je reprends ma discipline et celle de quelques collègues, ce n'est pas pour rien que les programmes d'histoire ont comme finalité d'avoir des repères communs. Ce n'est pas pour rien que on fait encore des programmes. Il y a des pays qui se passent de programmes à l'école. Nous, on a encore fait le choix de faire des programmes. L'idée qu'il y a derrière les programmes, c'est que toute une génération ait quelques repères communs. Pour se parler, il faut que nous ayons quelques repères communs. Et là, nous avons quelques concepts, quelques notions clés communes. Alors, évidemment, la démocratie... Je veux dire, mais ça, c'est l'historien qui parle. Je ne supporte pas d'entendre les valeurs de la République. Je veux, j'exige qu'il y ait le qualificatif de cette République derrière, une République démocratique et sociale. Je vous rappelle, enfin, vous le savez aussi bien que moi, que la Syrie est une République. Je n'adhère pas aux valeurs de la République syrienne, je vous le dis. Moi, j'adhère aux valeurs d'une République démocratique et sociale. Donc, soyons bien au clair là-dessus. Ce qui fait le fondement du vivre ensemble dans notre pays, c'est bien sûr la République, parce que c'est la forme du régime qui a été choisie, mais cette République n'a pour unique fonction que de porter son qualificatif qui est démocratique et social. Ce qui compte, c'est le démocratique et social. Vous le savez avec des élèves, et c'est intéressant dès le plus jeune âge de leur montrer qu'on peut avoir une monarchie démocratique et sociale. Nos voisins britanniques sont au moins autant démocratiques et sociaux que nous, sous d'autres formes, bien sûr. Et il y a plein de républiques à travers la planète qui n'ont rien de démocratique et encore moins de social. Donc, véritablement, c'est déjà ça, on est complètement dans l'OMC.